C'est de golf dont je voulais vous parler à ce moment-ci de l'émission, pas tant pour revenir sur la performance coup par coup de Bryson DeChambeau, mais il est rare que la victoire d'un golfeur dans un tournoi majeur peut être, je dirais pas le début, mais un moment marquant dans l'influence qu'il risque d'avoir sur l'industrie. Et peu de golfeurs l'ont cette influence. Est-ce que DeChambeau pourra l'avoir? En tout cas, il arrive avec une approche qui n'est pas partagée par aucun autre golfeur depuis des décennies. Alors, je pense que ça mérite un moment d'attention pour lequel nous avons sollicité les services de l'excellent professionnel de golf, Dave Lévesque. Bonsoir, Dave.
Allô, Mario.
Dave, donc, une victoire impressionnante de DeChambeau. Il était tout seul sur le parcours. Ça n'a pas rendu ça excitant comme fin de tournoi, mais par contre, ça nous a pris le temps de s'arrêter puis de prendre conscience que tout ce qu'il amène dans le golf et tout ce qu'il réussit à prouver par une victoire comme celle-là, il risque d'avoir une influence sur l'industrie. Quand on s'est parlé vendredi, après deux rondes, tu voyais pas le gagnant parmi ces gars-là. Je pense que t'aimes quand même l'approche de DeChambeau, que tu décrivais pas comme un des impopulaires avec Patrick Reed, là, mais un gars qui a quand même un casting, qui a un profil de personnalité différent des autres. Est-ce que sa victoire est bonne pour le golf? Il y a des golfeurs qui se le sont demandé hier, compte tenu de tout ce qu'il amène comme changement.
Oui, c'est bon. Les points que tu amènes, exact. C'est un point tournant, je crois, dans l'histoire du golf qui vient de se passer ce week-end avec la victoire à DeChambeau. C'est un personnage polarisant qui fait réagir principalement la vieille garde du golf. Le golf est un sport très traditionnel. Et puis, sa façon, son approche, qui est une approche très scientifique, hautement technique, c'est beaucoup plus... Les gens voient les gros muscles à DeChambeau, mais il y a beaucoup plus de travail derrière ça qu'on voit juste là, ces gros muscles puis frapper loin. Son élan de golf, c'est un élan particulier, mais qui est fait pour précisément fitter avec sa puissance, ses bâtons. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que là, ça vient de chambouler les choses. Puis... honnêtement, si tu es un jeune golfeur présentement qui aspire à l'élite mondiale, puis tu portes pas attention à ce que Bryson est en train de faire, je pense que tu vas manquer le bateau dans quelques années. On va voir ce qui va se passer. Il y a plusieurs choses, il peut avoir plusieurs répercussions avec la victoire de DeChambeau ce week-end. On parle depuis des années de la bifurcation des règlements au niveau du golf. Est-ce que le golf professionnel homme va finalement arriver avec des modifications aux règles de golf qui vont faire que lorsque tu vas devenir professionnel homme, tu vas avoir certaines règles qui vont réglementer ton sport par rapport aux golfeurs réguliers. Ça, c'est toutes des choses là qui devraient arriver dans les prochaines années. Ça va être très intéressant à voir.
Si on découpe ça, puis écoute, on pourrait partir 10 minutes sur chaque point, mais on va essayer d'être le plus sommaire possible pour aborder le plus de points possible. Mais le pari que DeChambeau a fait au US Open à Winged Foot, un terrain où on devait en principe jouer de façon prudente pour pas être dans ce qu'on appelle l'herbe longue, le rough, lui, là, il a décapité cette théorie-là. Il a frappé par-dessus toutes les difficultés en acceptant d'arriver dans l'herbe longue. D'ailleurs, la moitié de ses coups de départ sur des trous outre les par 3 était dans l'herbe longue, puis il était prêt à vivre avec ça. En gros, c'est ça qu'il a fait, Dave?
Oui, exact. Winged Foot et le US Open, la combinaison des deux. Winged Foot est un des terrains, des parcours de golf les plus difficiles au monde. Ensuite de ça, tu rajoutes un US Open qu'eux autres, peu importe le tournoi, le parcours sur lequel ils vont disputer le US Open, ont l'habitude de rendre les conditions de jeu, donc l'herbe longue, les verres ultra fermes, ultra rapides, rétrécir la largeur des allées, toutes ces choses-là. Donc, quand tu combines Winged Foot et le US Open, ça devait être le test ultime afin de combattre la nouvelle génération des longs frappeurs. Tout le monde disait, non, les longs frappeurs pourront pas, ils vont être forcés à jouer prudemment, frapper les allées, et puis rentrer sur les verres avec des bâtons plus longs. Bryson DeChambeau a fait ses rondes de pratique, a fait son analyse du parcours. Scientifiquement, il en est arrivé avec le résultat que la majorité des par 4, les normales 4, avec sa puissance, même s'il manquait l'allée, il allait être capable, vu qu'il allait être beaucoup plus près des verres que la majorité des autres joueurs, même s'il était dans l'herbe longue, d'être capable de frapper un wedge en hauteur, puis minimalement frapper le centre du verre, puis quand même être sur le verre, puis faire un deux coups roulés, s'en aller avec le par. Tandis que les joueurs qui vont jouer plus prudemment, puis en réalité... lorsque tu joues plus prudemment, tu ne frappes pas ton driver, il n'y a rien qui garantit en fait que tu vas frapper l'allée de toute façon. Mais si tu manques l'allée avec en jouant prudemment, mais là, tu as un fer 5, fer 6 dans les mains, tu n'as aucune chance avec l'herbe longue de 4-5 pouces de frapper le verre, donc tu es obligé de sacrifier un coup. Donc, c'était dans l'ensemble de l'analyse à Deschampeau de dire, regarde, en fait, j'ai pas peur de l'herbe longue. Puis ma théorie, c'est que avec ma puissance, je vais avoir un énorme avantage sur la majorité des joueurs allant loin en risquant de peut-être frapper l'allée, mais sinon dans l'herbe longue. Donc c'était son gambling qu'il a fait, puis ça a payé.
Et honnêtement, il a cloué le bec à tout le monde, Dave, hein?
Oui, absolument. Il y a absolument. C'est un peu tout ça, là, dans Deschambault. Moi, ce que j'admire de lui, c'est qu'il a su vraiment tracer son chemin, puis sans s'occuper du jugement des autres. Il y a un élan particulier, il y a une approche particulière, et puis ça a fait réagir. C'est sûr qu'il y a des côtés, il y a des mauvais côtés. Dans les dernières années, à un moment donné, il était très très lent sur le parcours, il retardait ses compétiteurs, retardait le temps de jeu. C'est des choses qu'il a travaillé fort pour essayer d'améliorer. Ensuite de ça, des fois, ses commentaires peuvent passer un petit peu arrogants, mais c'est un personnage unique qu'il faut apprendre à découvrir, puis d'apprendre, parce qu'il partage beaucoup toute son approche, tout son entraînement physique, tout son élan oui. est très technique, puis il va partager avec tous ceux qui veulent le savoir la façon, la logique derrière tout ça. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage à faire avec l'aventure à Deschambault.
On le savait, il n'était pas professionnel qu'on le savait que c'était un golfeur particulier qui s'en venait parce qu'il a gagné le championnat amateur, le championnat de la NCAA. C'est un gars qui gagnait. Et on le savait dès cet âge-là qu'il jouait avec des bâtons qui ne ressemblaient pas aux autres. Je vais faire bifurquer un peu la conversation vers l'aspect consommation de tous les gens qui nous écoutent qui jouent au golf. Dave, moi là ou toi, là, je veux un sac avec des bâtons de golf, pas le sac comme les bâtons, comme Deschambault. Je veux la même longueur de tige, on fait ça sur tous mes fers. Tout ça, je veux dire, ça se vend-tu des bâtons comme Deschambault utilise?
Absolument. C'est le manufacturier, c'est Cobra. Cobra qui est, depuis que Deschambault a signé comme professionnel de golf, on fait une entente ensemble, puis on manufacturait des bâtons, ils appellent ça des one length, qui est une longueur. C'est en moyenne à peu près la longueur des fers 6. Ça peut varier, je te dirais, des gens de plus petite stature, ça va plus aller aux alentours d'un fer 8, fer 7, la longueur d'un fer 8, fer 7. Donc, tous tes fers à partir de tes wedges jusqu'au, si tu utilises un fer 4, fer 5, tous les bâtons vont être de la même longueur.
Avant Deschambault, je m'excuse de t'interrompre juste pour te relancer plus loin. Avant Deschambault et Cobra, c'était du jamais vu sur le marché, ça?
Oui, ça avait déjà existé. C'est un concept qui avait été testé dans les années 70 avec la compagnie, je crois, AccuForm, qui avait manufacturé un set de bâtons, mais ça avait jamais gagné en popularité. Il y avait un petit peu des défauts. Il y a beaucoup de technologie derrière ça. Tu peux pas prendre un set de bâtons normal que tu as chez vous, puis tout mettre des tiges de la même longueur, puis t'en aller sur le terrain. Tu réussiras pas à produire des longueurs progressives entre chaque bâton. Donc, il y a beaucoup la pesanteur de la tête va faire varier la puissance du coup, la hauteur du coup, la façon que le poids est réparti dans la tête. Donc, il y a beaucoup de technologie derrière l'ensemble de bâtons que Bryson DeChambeau joue. Mais la compagnie Cobra, effectivement, vend, puis je pense que ça va gagner en popularité finalement. C'est de quoi qui peut bénéficier à l'ensemble des golfeurs, surtout ceux là, les golfeurs amateurs. Pourquoi qu'on n'en voit pas plus au niveau des golfeurs professionnels? C'est que le statu quo et la zone de confort est vraiment ancrée fort pour un professionnel ou un jeune professionnel qui arrive des rangs collégial puis devient professionnel puis qu'il a connu sa progression, il a connu la puissance, donc la qualité de son jeu avec des bâtons traditionnels. Puis faire le switch, la majorité des joueurs veulent pas faire oser risquer. C'est ça. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est disponible, puis j'encourage les gens à aller vers ça. C'est un bon produit, c'est un produit qui fonctionne bien. Puis,
as-tu essayé ça pour toi-même, Dave? Est-ce que la façon d'approcher le golf de Bryson DeChambeau, t'es pas à 15 ans à l'aube de ta carrière professionnelle, mais crois-tu que même des jeunes et moins jeunes qui ont joué contre lui hier, personne n'a réussi à battre le par, c'est le seul gars sur le terrain. Est-ce que il provoque une réflexion chez tout golfeur, dont toi, Dave Lévesque, de dire « Crime, j'aurais aimé ça essayer ça avant » ou « J'ai envie d'essayer ça maintenant »
Ben, je savais pas t'aller sur ce sujet-là, mais effectivement, j'ai ça dans mon sac. C'est ce que j'utilise depuis la dernière année. Et puis, c'est ça. Je l'ai fait parce que ma carrière de professionnel compétiteur est pas mal terminée. Là, je joue encore de la compétition pour m'amuser, mais je suis plus un compétiteur actif. Puis c'est pour ça que j'ai fait le transfert vers... Puis c'est de quoi? C'est un concept qui m'intéressait énormément. Une fois que tu as trouvé l'emplacement de ta balle, l'angle de ton élan de bâton est toujours le même, ta position de balle est toujours la même, puis les bâtons fonctionnent très bien. Donc, c'était pas mon but de faire une pub pour ça, mais en réalité, c'est ce que j'utilise. Puis moi, c'est je le regarde aller Bryson depuis quelques années, puis c'est un concept qui m'intéressait, puis j'ai fait le transfert dans la dernière année.
Là, et est-ce que tu penses que tu aurais eu encore de meilleurs résultats si tu avais essayé ça ou si ça avait existé il y a 15 ans, Dave, juste par curiosité par rapport à l'efficacité?
Oui, si j'avais su oser, puis c'est ce que j'admire de Bryson DeChambeau, c'est qu'il n'a pas peur de risquer, par rapport à la majorité des golfeurs, de prendre 30-40 livres de masse musculaire, de faire toutes ces choses-là. Lui, il fait ça au prime de sa carrière, il fait ça lorsqu'il y a tout à perdre, mais il risque pareil, puis c'est la différence avec les autres joueurs. Puis moi, pour mes résultats personnels, j'ai amélioré. T'sais, au golf, il y a le frapper le sweet spot, donc frapper le centre du bâton. Pour être un bon golfeur, un golfeur professionnel aguerri, tu vas varier habituellement 8 sur 10. Là, si tu réussis à frapper ton sweet spot 8 fois sur 10, c'est un bon pourcentage, ça veut dire que t'as un bon contrôle de ton élan. Avec ce concept-là de bâton, là, présentement, je suis à 10 sur 10. Je manque presque jamais mon sweet spot sur mon bâton parce que une fois que tu as trouvé ta position de balle, comme je disais tantôt, puis ton angle d'élan, tu peux quasiment plus manquer. Puis ça fait partie de la logique scientifique à Bryson DeChambeau d'utiliser ces bâtons-là. C'est que c'est beaucoup plus répétitif.
Ça rendrait le golf plus facile, si je saisis bien ce que tu dis, Dave. Donc,
ben
moi,
oui, c'est pour ça qu'il fait.
Mes enfants, quelqu'un pense à commencer à jouer au golf aujourd'hui, même si c'est juste là, pour le plaisir. Absolument. On parle pas d'aller gagner le US Open ou un jeune qui commence. Donc, en principe, si tu assimiles cette technique-là, ça va être plus facile de jouer au golf.
Absolument. Puis c'est pour ça que Bryson le fait. Si c'était pas plus facile, il le ferait pas. Il ferait exactement ce qui est plus facile. Puis c'est pour ça qu'il le fait. Donc, répondre à ta question, absolument.
Et hier, il a décidé de manger un steak patate parce qu'il veut encore prendre une dizaine de livres, parce que donc plus il est fort. Parce qu'avant, c'était un gars qui frappait dans la moyenne des cogneurs de la PGA. Là, il devient l'un, sinon le plus long cogneur. Clairement, il dit que c'est un avantage. Peu importe où c'est que t'aboutis, dans l'herbe longue, pas de problème. Et là, il va tester dès le prochain tournoi. Qu'est-ce que ça veut dire, Dave? Parce que pour moi, je lis ça, c'est un peu de l'algèbre. Un driver de 48 pouces. J'imagine qu'on parle de la tige. Donc, ça va être plus long. Il va frapper encore plus loin. C'est tout ça le pari ou l'essai qu'il va faire?
Oui, physiquement, plus ta tige est longue, plus ta tête de bâton va parcourir, va avoir plus de vitesse lors de ton élan. C'est des techniques. 48 pouces, c'est la longueur maximale permise selon les règlements du golf présentement. Et puis, il va aller aux limites, mais il y en a déjà qui avaient testé ça, mais plus ta tige est longue, plus ta dispersion est grande. Donc là, de frapper des balles à droite, à gauche. Donc Bryson, c'est à cause de sa force physique, est capable de contrôler, à cause de son élan qui est hautement technique et focusé sur la précision. Ça a l'air fou, mais l'élan à Bryson DeChambeau, c'est un élan de précision, mais son corps est fort physiquement, donc c'est un équilibre entre les deux. Puis en ayant une tige de 48 pouces, ben va pouvoir aller chercher encore de la vitesse de tête de bâton, donc plus de puissance. C'est encore une autre chose. Donc ça va être une histoire à suivre encore avec Bryson. D'après moi, on va voir ça en jeu pour le Masters. Tout le travail que Bryson a fait dans les dernières années, puis c'est pas c'est pas un nouveau travail qui a entamé durant la COVID. Là, les gens parlent de ça. Des fois, j'entends ça. C'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a environ 2 ans. Puis, je pense que on va voir la prochaine évolution au Masters dans à peu près 6 semaines, à la mi-novembre.
On ne pourra pas l'écarter de la liste des favoris, assurément. Et on aura l'occasion de développer davantage encore sur tout ce que ça amène, tout ce qui peut provoquer. Va-t-il falloir redessiner les terrains? On se posait cette question-là quand Tiger a commencé à dominer le golf avec des coups de départ qui étaient très longs. Puis finalement, maintenant, il y en a qui frappaient plus loin que lui. Ça bouleverse l'industrie du golf, non seulement les golfeurs professionnels. Dave, un gros merci de ta présence. Je te dis à très bientôt pour la suite de cette discussion-là.
Merci Mario, ça fait plaisir. À la prochaine.
À la prochaine, Dave. 19h17, on vous souhaite un bon début de soirée en ce lundi soir. Déjà tranquillement vers l'obscurité. Ça a été une belle fin de semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans quelques instants après la pause, nous poursuivons l'émission avec Benoît Brunet. Martin Mégoire sera également avec nous. Martin qui a eu l'occasion de participer à une conférence téléphonique avec des joueurs entraîneurs du Lightning de Tampa Bay. Benoît nous livre ses impressions sur la finale, match numéro 2 ce soir. Revenez-nous.